chers camarades, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir à la fête annuelle de lutte ouvrière à Strasbourg. Et avant de passer au couscous, je souhaiterais vous dire quelques mots sur la situation politique. Toute la classe politique et les grands patrons ont pleuré cette semaine la disparition du patron de Total, Christophe de Margerie, dans un accident d'avion. La plupart des médias ont d'ailleurs oublié dans leurs condoléances les trois membres de l'équipage et leurs familles. Les médias ont beaucoup parlé des moustaches de Margerie, mais beaucoup moins des liens familiaux du PDG du groupe, le plus prospère de France, qui malgré ses plus de 8 milliards de profits, ne paye pas un centime d'impôt en France. De Margerie était avant tout un homme de la grande bourgeoisie et même de la très grande. Il était le fils d'une Tétinger très connue à cause du champagne. Mais cette grande famille bourgeoise n'est pas que dans les bulles. Elle est présente dans les affaires, dans l'industrie du luxe et dans la politique depuis un siècle. La famille Tétinger a fourni bon nombre de politiciens à la droite. Mais elle en a fourni aussi à la gauche, comme Jean-Pierre Jouyet, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, marié à une autre fille Tétinger. Jouyet, grand ami de Hollande et de Royal, qui sous le mandat de Sarkozy n'avait pas hésité à se retrouver secrétaire d'État, tant ces hommes politiques, qu'ils soient de droite ou qu'ils se disent de gauche, sont toujours au service de la bourgeoisie. Le décès de De Margerie illustre les liens vivants, familiaux, entre les sommets de la grande bourgeoisie et la classe politique. Ils sont du même monde, de la même classe, la bourgeoisie, celle pour qui rien ne peut arriver car ils tirent leur fortune, leur richesse de la possession du capital. En plus d'être nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, ils ont toujours le portefeuille bien rempli et l'avenir assuré. Le groupe Total est bien à l'image du capitalisme aujourd'hui. Les trusts occidentaux comme Total et bien d'autres pillent l'Afrique et sont responsables du drame du continent africain. Aujourd'hui victime de l'épidémie due au virus Ebola, mais depuis des siècles victime du virus de l'exploitation et du pillage capitaliste. L'épidémie due au virus Ebola a démarré il y a près d'un an en Afrique de l'Ouest, où l'on compte 4500 morts. Mais il a fallu que le virus atteigne les pays riches pour que leurs dirigeants s'en inquiètent. Tant que les morts étaient africains, ils en faisaient peu de cas. Aux États-Unis ou en France, les gouvernements se veulent rassurants. Les hôpitaux et le personnel seraient bien préparés pour empêcher toute épidémie. Mais il y a la théorie et la réalité. S'il y a une menace de contagion d'Ebola, même dans les pays riches, elle est due au fait que nos systèmes de santé sont sacrifiés sur l'autel des économies. Elle vient du fait que l'argent, les profits et le cours des actions sont placés au-dessus de tout, y compris au-dessus de la santé publique. C'est de plus en plus vrai, même dans les pays riches. Et cela l'est encore plus dans les pays pauvres, où l'accès aux soins est réservé à une toute petite minorité et où l'on peut mourir d'un accouchement, d'une crise de paludisme, d'une fièvre typhoïde, d'une plaie mal soignée et même d'une simple diarrhée. Les enfants, les femmes et les hommes qui meurent aujourd'hui d'Ebola en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone sont d'abord et avant tout les victimes de la loi sans pitié du marché capitaliste. Une loi qui fait qu'il n'y a pas de vaccin ni de médicaments contre Ebola, alors que le virus est connu depuis 1976, bien avant le virus du sida pour lequel, comme il y avait un marché, l'industrie pharmaceutique a trouvé des remèdes. Mais les trusts pharmaceutiques ne veulent pas se pencher contre les maladies de la misère, car elles sont trop peu profitables à leur goût. Ce sont encore les rapports de classe, les calculs de l'intérêt froid et égoïste qui font qu'aujourd'hui, malgré l'urgence de la situation, les grandes puissances continuent de faire preuve d'une indifférence criminelle. Car malgré le dévouement d'organisations humanitaires comme Médecins sans frontières, les volontaires sur place sont complètement débordés. Hollande a annoncé l'installation d'un hôpital militaire en Guinée, mais il n'a pas encore vu le jour alors que Cuba, 6 fois moins peuplé que la France, a déjà envoyé sur place plus de personnel médical. Les sommes annoncées par les grandes puissances sont insignifiantes en comparaison des moyens militaires qu'elles déploient actuellement au Moyen-Orient pour surveiller et bombarder la région. Et l'ONU pleure toujours pour obtenir le milliard de dollars qu'elle réclame aux grandes puissances pour faire face à Ebola. Mais voilà, seuls comptent leurs intérêts au Moyen-Orient, le pétrole, leur influence économique, pas la vie de dizaines de milliers d'Africains. Le Liberia, la Guinée ou le Sierra Leone ne comptent que 2 médecins pour 100 000 habitants, 200 fois moins qu'en France. Qu'Ebola s'y propage n'est pas un hasard, mais contre cette misère, il n'y a pas de grande coalition, de branle-bas de combat et d'équipements ultra-sophistiqués. L'épidémie d'Ebola qui tue aujourd'hui en Afrique et menace de tuer ici demain n'est pas naturelle. Elle est le produit du sous-développement. Les victimes ne meurent pas que du virus, mais des rapports sociaux capitalistes fondés sur la domination des pays riches et des intérêts privés d'une minorité qui livre la moitié de l'humanité au dénuement le plus total. Depuis 40 ans, l'économie capitaliste est plongée dans la crise. Une crise dont elle ne se sort pas, malgré des reprises partielles, la solution trouvée pour résoudre chaque crise ne faisant que préparer la suivante, un peu plus grave que la précédente. On a appris la semaine dernière que l'État français avait atteint les 2000 milliards de dettes, dont la moitié sont dues à la crise de 2008 et au renflouement des banques que les États ont sauvées de la faillite en leur offrant des centaines de milliards. Du coup, chaque année, l'État français verse 50 milliards aux banques rien que pour rembourser les intérêts de cette dette. Pour y arriver, le gouvernement fait des économies sur le budget de la sécurité sociale, sur les retraites, les allocations familiales. Mais personne ne discute d'exiger des banques, pourtant sauvées par l'État lors de la crise de 2008, de diminuer le montant des intérêts qu'elles exigent. Le gouvernement nous fait payer la crise et les conséquences de la spéculation financière. Il aide le patronat à précipiter dans la pauvreté, puis dans la misère, une fraction croissante de la population pour maintenir ou accroître les profits des entreprises. Même dans un pays riche comme la France, de moins en moins de personnes sont désormais en mesure de se payer une mutuelle. Au total, aujourd'hui, 3,3 millions de gens n'ont pas de mutuelle santé, avec toutes les conséquences catastrophiques que cela veut dire. L'économie capitaliste entraîne toute la société dans le mur. Un éditorial du journal économique Les Échos titrait, et je le cite, « Quand Wall Street marche sur la tête ». Ce n'est pas que ce journal patronal soit devenu gauchiste, mais il expliquait tout simplement que la quasi-totalité des 914 milliards de dollars de bénéfices réalisés par les sociétés cotées à la bourse de New York étaient consacrés à enrichir les actionnaires. En effet, 95% des bénéfices leur sont reversés sous forme de dividendes ou de rachats d'actions, ce qui traduit le fait que les entreprises n'investissent pas, mais servent uniquement à enrichir leurs propriétaires, ce qui, même du point de vue du fonctionnement du système capitaliste, n'est pas possible à terme. La dernière fois que les actionnaires se sont autant goinfrés, c'était en 2007, c'est-à-dire à la veille de l'éclatement de la bulle financière. Voilà ce qui inquiète les journaux patronaux. Oui, les marchés, en fait il faut dire les détenteurs de capitaux, les capitalistes, sont irresponsables. Ce qui compte, ce qui les fait agir, c'est le profit rapide, pas la marge de l'ensemble de la société. Ils savent que leur spéculation actuelle prépare la prochaine crise. Ils savent que des centaines de milliards sont disponibles et stérilisés dans des opérations spéculatives dévastatrices pour l'économie. Alors qu'on ne construit ni les logements, ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les routes, ni les voies de chemin de fer dont l'humanité aurait besoin. Ils savent tout cela. Certains s'en inquiètent, mais c'est la logique de l'économie capitaliste. D'ailleurs, même le FMI pointe la fragilité et les risques financiers et économiques liés au système bancaire et la prolifération des fonds d'investissement qui spéculent plus qu'ils n'investissent. Le FMI s'alarme ainsi que les 10 plus gros fonds de placement à l'échelle du monde disposent d'une masse d'argent de 19 000 milliards de dollars, soit 63 fois le budget de l'État français. C'est dire la masse d'argent dont disposent les financiers et des risques qu'ils font peser sur la planète. Et pendant qu'ils jonglent avec les centaines de milliards, l'ONU n'arrive pas à récolter le petit milliard dont elle a besoin pour faire face à Ebola en Afrique. Alors, que faire face à cela? D'abord, les travailleurs, les chômeurs, les retraités doivent défendre leur droit à la vie et à un revenu qui permette à chacun de vivre dignement. La société est suffisamment riche pour cela et aucune catastrophe naturelle ne justifie que chacun n'ait pas ce qu'il faut. Oui. Il est indispensable de mettre fin au chômage par la répartition du travail entre tous sans diminuer les salaires. Et en tout premier lieu, il faut interdire tous les licenciements. C'est la première urgence. La seconde urgence, c'est l'augmentation des salaires, des pensions et des allocations pour que personne ne soit gêné pour se nourrir, se soigner, se loger ou se chauffer. La troisième urgence, c'est de contrôler les comptes des entreprises et des banques afin que les travailleurs et la population puissent mettre un holà sur leur folie spéculative et les projets de fermeture d'usines. Ces trois objectifs doivent être au cœur des luttes qui ne manqueront pas de se produire face à la protée aux gains des capitalistes. Mais il faudra des femmes et des hommes pour les défendre. Et puis au-delà de cela, nous sommes convaincus que la société ne peut pas être sauvée sur la base de l'économie capitaliste. Le seul choix qui se présente à nous, c'est de changer la société en reversant le pouvoir économique et social de la bourgeoisie. ou de subir le cheminement vers la barbarie. Socialisme ou barbarie, c'est l'alternative qui nous est posée comme cela l'a été dans les années 1930, après la grande crise et la victoire du nazisme en Allemagne. L'enjeu de changer la société avant qu'elle n'aille vers la barbarie est d'une toute autre importance que les misérables débats entre politiciens à l'intérieur du système politique actuel. Les pantins politiciens de gauche ou de droite essayent de nous distraire, avec de moins en moins de succès, pendant que les capitalistes nous font les poches. Le Pen est candidate à jouer, elle aussi, ce rôle de pantin. Car il y a pire illusion encore que celle que distille à gauche, c'est celle qui fait qu'une fraction importante des classes populaires se retrouve à voter pour Le Pen, fille, sous prétexte qu'on ne l'a pas essayé. Les idées de Le Pen sont un poison pour le monde du travail, car elles visent à diviser les opprimés selon leur nationalité, selon leur religion ou leur origine, et leur faire croire qu'il y aurait la communauté des Français, alors que la seule communauté qui vaille pour les opprimés, c'est la communauté et la solidarité de tous les travailleurs. On peut se remettre des illusions déçues envers Hollande, mais la société ne se remettra pas des illusions envers Le Pen. À la gauche de la gauche, comme on dit, ils ne peuvent plus nous faire le coup de l'homme providentiel qui va changer les choses, après les expériences de Mitterrand, Jospin et Hollande. Alors ils nous font le coup du changement de numéro de la République, et ce serait la 6e République qui changerait tout. Mais en quoi un changement de numéro égratignerait si peu que ce soit le pouvoir des Mittal, des Peugeot ou des Muliez? Leur pouvoir, ils le tirent de la possession de leurs capitaux, et c'est grâce à cela qu'ils exercent une véritable dictature sur la société, pendant que leurs pantins politiciens s'agitent sur le devant de la scène. Oui, il n'y a pas d'autre solution que de changer la société, que d'arracher le pouvoir aux capitalistes et aux banquiers, et de réorganiser toute l'économie pour qu'elle serve à satisfaire les besoins essentiels de toute l'humanité. Cela s'appelle le communisme, un mot qui vient du latin communis, qui veut dire commun, universel. Et la seule force sociale capable de réaliser ce bouleversement, c'est la classe ouvrière parce qu'elle a pour elle le nombre, et qu'elle est la seule classe à y avoir intérêt. C'est aussi la seule classe qui aurait les moyens de décider collectivement et démocratiquement de l'avenir de la société parce qu'elle est concentrée dans les grandes entreprises et les centres urbains. Nous sommes persuadés que la classe ouvrière reprendra confiance en elle et qu'elle reprendra conscience de ses forces qui sont réelles et qui n'ont pas disparu tout simplement parce que la société capitaliste ne peut se passer d'elle. Sans elle, rien ne peut fonctionner, y compris la machine à profit au bénéfice de la classe capitaliste. Je travaille chez Peugeot à Mulhouse. Nous sommes certes moins nombreux qu'avant, à force que la direction ait laminé l'emploi. Mais sans nous, aucune voiture ne serait fabriquée et la famille Peugeot ne serait pas une des plus grosses fortunes de France. Sans caissière de supermarché, les propriétaires des grandes chaînes Auchan, Leclerc et autres ne verraient pas un centime rentrer dans leur caisse. Bref, sans ouvriers, sans employés, sans techniciens, ingénieurs, enseignants, personnel des postes, des hôpitaux, des transports, de l'électricité ou du gaz, rien ne se ferait dans la société. Bien sûr, le prolétariat apparaît faible, même pour se défendre. Il est aujourd'hui dispersé, atomisé, subissant tout le poids du capitalisme. Mais la nécessité historique de remplacer l'ordre social capitaliste agonisant finira par se créer un chemin dans les consciences. Cela ne se fera pas tout seul, et l'existence de forces politiques agissant dans ce sens est absolument indispensable. Le camp des travailleurs doit s'affirmer, et il faut qu'émerge un parti qui représente les intérêts politiques et économiques de la classe ouvrière. Un tel parti ne pourra surgir que si des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs reprennent confiance en eux et en leur classe. Cela ne dépend pas de nous. Par contre, il dépend de nous de maintenir vivantes les idées du communisme révolutionnaire, de faire en sorte que les idées de la lutte des classes, l'internationalisme, soient incarnées par des hommes et des femmes qui ne se résignent pas à la marche à la barbarie vers laquelle nous entraîne le capitalisme. Il faudra remettre en cause le pouvoir du grand patronat sur l'économie et sur la société tout entière. Il faudra se donner le moyen de contrôler le fonctionnement des entreprises. Il faudra s'attaquer au secret des affaires, qui permet au patronat de cacher ses mauvais coups aux travailleurs et de dissimuler le pillage des richesses et ses gaspillages. Il faudra imposer l'abolition du secret des affaires. Alors, il est à souhaiter qu'au cours des développements de la crise, qui n'est malheureusement pas finie, une fraction de la jeunesse et des travailleurs saura renouer avec les idéaux communistes. Mais en attendant, camarades et amis, Je vous souhaite un bon appétit, une belle fête, car la fraternité est quelque chose que le patronat ne pourra jamais nous voler. Et avant de passer à table, je vous propose de reprendre ensemble l'international, le chant de lutte des opprimés qui, en cette époque de montée des nationalismes, est d'une brûlante actualité.
Debout les damnés de la terre,